Donc, nous prolongeons la réflexion sur l'Église. J'ai abordé la fois passée un sujet très concret, conflictuel, où quelqu'un, quand il avait de dures épreuves, s'est adressé à une Église et à un réseau d'Églises, et pour finir, a souffert d'une forme de pression, de domination, qui était... Et moi, j'ai connu ça dans l'Église catholique. J'ai connu ça dans, j'ai vu ça dans d'autres organisations où les gens sont tellement coincés, ils sont culpabilisés et ils sont soumis à l'institution. Et ce n'est plus du tout à Dieu ni à Jésus-Christ. Ça, c'est un gros problème. C'est l'inversion des choses. Et ça, c'est dangereux. Il faut toujours que l'Église soit une servante de Dieu. Et on va essayer de comprendre. Donc dans Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 21. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » En parlant des personnes qui sont sauvées par le sang de Jésus. Évidemment, c'est dans les versets qui précèdent, par la croix de Jésus. Vous avez été édifiés, donc construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Vous vous rendez compte de la densité de ces versets-là? C'est impossible qu'aujourd'hui j'explique tout ça. Là, par exemple, à la Rote, en Auvergne, en été, si je dois parler à des chrétiens, il faut que je passe une journée là-dessus. Enfin, au moins la prédication d'une journée. C'est un minimum. C'est un minimum. Alors, ça, c'est une base. Et bien sûr, la pierre angulaire, on en reparlera tout à l'heure, c'est une expression qui vient de Dieu à travers la Bible. Ce n'est pas une invention de Paul. Alors, vous avez vu que concitoyens des saints, donc on fait partie de la même cité que les saints. Où sont ces saints? Dans l'hébreu, c'est clairement mis que nous nous sommes approchés de l'assemblée céleste. Et les saints sont ceux du ciel et ceux de la terre ensemble. C'est une cité nouvelle, glorieuse, gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est aussi dans Hébreu que nous sommes la maison de Dieu. Bon, nous allons voir que partout ces mots se répètent. Hein? Un temple saint dans le Seigneur, c'est aussi, bien sûr, dans Corinthiens. Ce n'est pas des hasards, tout ça. Que des pierres soient posées sur une fondation, Pierre, dans ses épîtres, parle de pierres vivantes. Donc, nous sommes dans un thème fondamental de tout le christianisme qui démarre à travers ces versets. C'est pas simplement une fantaisie littéraire ou théologique de Paul. C'est réellement le regard de Dieu sur la nature même de l'Église et il faut méditer. Je vous invite à lire, relire parfois certains versets. Il faut y penser en étant en auto, en se promenant, en travaillant. Tout ça, ça vient avec le Saint-Esprit. Et en relisant tous les autres passages à travers les Écritures, on se rend compte de l'enseignement qu'il y a à travers deux ou trois versets parfois qui sont énormes, plus importants qu'une tour Eiffel ou n'importe quoi. Tout ça, c'est du folklore qu'on voit sur Terre, à côté. Alors, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Donc, c'est l'évangile. On a des parchemins en araméen, hein, de Matthieu. On en a surtout en grec. C'est évidemment le premier évangile qui a été rédigé. Mais la deuxième chose, adressé aux communautés en Judée, à Jérusalem, surtout au départ, maintenant nous tous, les humains, et pour des chrétiens issus du judaïsme. Donc, dans Matthieu, chapitre 16, au verset 18, Si je reprends tous ces thèmes, c'est bien sûr pour nous, mais c'est évidemment aussi pour ce frère qui m'a demandé des explications sur l'écriture et qui doit en parler avec ses enfants qui ont été orientés de manière différente dans l'enseignement de leur église. Matthieu 16, verset 18. Je vous dis, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, dans ce verset-là qui a été pris au VIe siècle par l'évêque de Rome, à l'époque où l'Empire romain était cassé, l'évêque de Rome est devenu le souverain pontife, le pontifex, c'est-à-dire l'empereur, et en même temps chef spirituel. C'est de là qu'est venue cette mixtion du politique et du spirituel. Et il n'y a pas à se plaindre contre l'islam qui fait la même chose dans beaucoup de pays, c'est que c'est dans la tête du catholicisme. C'est dans la mentalité, dans l'esprit du catholicisme, ça. Les protestants de France et d'Europe l'ont payé cher quand ils sont trouvés en face d'un roi de mandat divin, hein, Louis XIV et d'autres. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est un futur. C'est un futur rapproché, c'est à la Pentecôte, évidemment. Mais je bâtirai, donc c'est lui le constructeur. Il n'a pas dit, vous bâtirez. Et Pierre, le mot Pierre, le nom de Pierre, de l'apôtre Pierre, eh bien c'est Pétros. Le mot dans le texte en grec, c'est Pétros. C'est pas autre chose que Pétros. Pétros, c'est un caillou. Et sur ce Pierre, je bâtirai mon église, l'autre mot Pierre, ici, qui est mis avec un petit P, vous voyez que le français peut tout induire autrement, le mot Pierre c'est Petra. Petra. Donc Petra c'est le mot qui représente le rocher, c'est le nom de Dieu dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, le rocher. Et donc imaginez que Pierre et l'apôtre Pierre, le futur apôtre Pierre, est en face de Jésus. Jésus lui dit tu es caillou, il le pointe et puis il se pointe lui et dit sur ce rocher je bâtirai mon église. C'est sur le Christ qu'est bâtie l'Église, c'est pas sur l'apôtre Pierre. Au VIe siècle, le chef religieux et politique de Rome a pris ce verset pour dire, ben vous voyez, c'est moi. Et c'est tous ceux qui m'ont précédé depuis l'apôtre Pierre. Ça s'appelle vraiment de l'abus de pouvoir, ça s'appelle détourner le sens des textes. Et ça, regardez bien la fin de l'Apocalypse, quand on ajoute quelque chose, hein, ou qu'on retranche, hein. Regardez bien ce qui est mis. Hein. On ajoute aux tribulations. On retire, pas de salut, pas d'arbre de vie. Alors, le rocher. Ce rocher, c'est intéressant de voir ce que ça veut dire. Prenons Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Vous allez voir que ce n'est pas neuf sous le soleil. Il y a longtemps que est préparée cette idée que le rocher est le fondement. 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, la grêle emportera le refuge de la fausseté. Donc on voit que tout ce qui a été déformé, hein, trafiqué par les hommes, même dans la foi chrétienne, va être déblayé, brisé. Mais ce qu'il y a, vous voyez cette pierre angulaire, vous en avez vu dans le texte d'Éphésiens. Vous l'avez vu, on l'a lu tout à l'heure. Donc il n'y a pas de doute, c'est un texte extrêmement important. Alors, regardons dans le psaume 118, donc Ésaïe c'était en 760, 780 avant Jésus, regardons le psaume 118, ça c'est 1000 ans, Le psaume 118. Qu'est-ce qu'il nous dit, le psaume 118? Que nous dit le Saint-Esprit à travers le psaume 118? Au verset 22 et 23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Donc le prodige, c'est bien sûr la résurrection de Christ qui montre à tous les pharisiens et aux chefs religieux qui avaient rejeté la pierre, rejeté Jésus, que Dieu a approuvé cette pierre comme fondement de son salut pour les hommes, offert aux hommes. Et pratiquement, quoi que les hommes aient fait, Dieu a démontré par un prodige, celui de la résurrection, que c'était la journée versée la plus formidable qu'il y ait eu dans l'histoire du monde. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand j'étais à Jérusalem dans le tombeau, et puis après devant le tombeau, j'ai voulu y rester des heures et des heures, tout seul, enfin avec le Seigneur et la Bible, je considérais réellement que c'était le lieu et le jour le plus glorieux de Dieu sur terre. Bien sûr, il y aura la venue de Jésus en gloire, qui établit son royaume. Et puis, il y aura le jugement final. C'est des jours glorieux pour Dieu. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment... J'avais aspiré depuis longtemps à profiter de ces moments-là. Et à l'âge de 60 ans, j'ai monté dans ce tas de ferraille qu'on appelle un avion pour avoir cette expérience sur ces lieux-là exactement. Pas pour aller m'esbaudir dans des distractions en Israël. Voyons Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Hey, ça veut dire que ça rigole pas, le Seigneur. Oui, il est doux homme de cœur, le Seigneur. Mais regardez à quel moment il va trancher. Il n'y aura pas de contestation possible. Pour le moment, on peut contester tout ce qu'on veut. Il laisse faire, il laisse dire. Vous savez, la colère de Dieu, pour le moment, elle est retenue. Elle est retenue. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que l'histoire des hommes est détenue par Dieu. Il sait attendre. Il sait contrôler sa colère, il sait contrôler ses desseins, et il sait agir quand il le veut. Colère de Dieu retenue égale histoire détenue par Dieu. Retenez bien ça, histoire détenue, elle est dans ses mains. Alors, regardons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 et 12. Nous sommes devant le grand Sanhédrin. Pierre et Jean doivent s'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié à l'entrée du temple pour la guérison d'un paralytique aîné. Et les vlas qui se passent au four, c'est-à-dire critiquer et menacer pour cette guérison. Imaginez. Alors, ils s'expliquent devant le Sanhédrin et ils disent que c'est Jésus de Nazareth qui a guéri cet homme. Et qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Regardez. Chapitre 4, je vais commencer au verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, séchez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Verset 10. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors regardez comment il définit Jésus. Il le présente au peuple juif. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Pan, Il reprend ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Et il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Là, il fait de l'herméneutique. Là, il donne la signification de la pierre angulaire. Il dit, le salut est en Jésus-Christ. Taratata pour le reste. C'est pas la loi qui va sauver, c'est pas le temple, c'est pas les sacrifices, c'est pas les traditions. Et zoom. Rendez compte, le missile que Dieu avait préparé et que Pierre a bien compris qu'il fallait insister là-dessus. Avant, il a fui, mais maintenant, il ne fuit plus. Il prend ses responsabilités. Romains chapitre 9, c'est un peu après les actes. Romains chapitre 9. Je tiens à insister sur ces choses, pourquoi ? Parce que je pense qu'aucun homme dans aucune institution chrétienne ne peut prendre une autorité à la place de Jésus-Christ. Il peut prendre une place de service au nom de Jésus-Christ, mais pas d'autorité de domination et d'oppression. De manipulation aussi, de détention, manière des chrétiens se maintenir. J'ai vu ça dans des églises au Bénin. Réellement, le peuple, il était dans les mains des pasteurs. Mais il y a ça à Rome, il y a ça autre part. Comment se fait-il que l'homme est si frauduleux, si frauduleux? Il prend une place qui ne lui revient pas. Alors, on s'étonne qu'il est venu de l'anticléricalisme partout, qu'il est venu de l'opposition. Pour beaucoup de gens, l'histoire les a dégoûtés, et leur amène le rejet de Dieu. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont présenté l'image de Dieu ne sont que des oppresseurs, des manipulateurs. Je ne dirais pas tous, mais il y en a eu beaucoup. L'histoire a prouvé que c'est ceux-là qui avaient le plus à dire. Romains chapitre 9, versets 32 et 33. On va commencer au verset 30, Romains 9, 30. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, c'est-à-dire le salut, hein, la justice qui vient de la foi, tandis que Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc nous voyons bien que le gros problème du peuple israélien, enfin à cette époque-là, juif, c'était les lois, 622 lois au temps de Jésus. Un rigorisme, un légalisme, une mascarade totale, et où tout le monde adhérait, ceux qui n'adhéraient pas étaient opprimés, bien sûr, culpabilisés, et regardez bien, pour Dieu, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Scandale, c'est scandaleux, c'est un caillou qui fait mal aux pieds, qui peut trébucher et tomber. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà. Nous avons donc une idée très claire de ce qui se passe dans un peuple attaché à trop de règles, trop, beaucoup trop, et qui a oublié l'essentiel, la grâce divine. Alors, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6. Corinthiens, chapitre 8, versets 5 et 6, page 871. Je suis dans une petite Bible, j'aurais pris l'habitude de vous le dire. J'ai oublié ma grosse Bible à Angers, chez des amis, mais elle va revenir. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 5 et 6. S'il est des êtres qui sont appelés Dieu sur la terre, hein, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, alors que c'est vrai qu'il y a des dieux, il y a des statues, etc. Regardez dans le brahmanisme, l'hindouisme, etc., le bouddhisme, et la civilisation grecque, etc. Hein? Et puis des seigneurs, des gens qui se prennent pour tout ce qu'ils ne sont. Hein? Plusieurs seigneurs, hein? Eh oui, devant qui il faut ramper et même prier, hein? Eh bien, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs dans l'histoire des hommes, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes finalement consacrés à Dieu, qu'on le veuille ou non. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, il s'agit bien du Père par qui nous sommes et pour qui nous sommes, et puis il s'agit bien d'un seul Seigneur pour qui nous sommes et par qui nous sommes. Donc, il est clair que le Christ, Jésus et Dieu le Père sont mis sur le même plan. Pour nous, pour notre vie. Mes amis, c'est extrêmement important. Et il faut faire attention. Nous allons retourner dans Matthieu, si vous voulez bien, dans Matthieu, puisque ce texte de chapitre 16 est quand même capital. Dans Matthieu, chapitre 16, il y a évidemment donc dans le mot Pétros, l'idée de quelque chose de petit, qui n'est pas fondamental pour le fondement, la fondation de l'Église, c'est l'apôtre Pierre, et il y a l'idée, par Petra, c'est le nom donné que Jésus se donne, l'idée qu'il est divin, qu'il est le fondement, il porte le nom de l'Éternel, il est le fondement du peuple de Dieu, le fondement du salut. Et qu'est-ce qui peut confirmer ça, alimenter cette réflexion? Nous allons voir chapitre 16, verset 22. Jésus vient d'annoncer au verset 21 qu'il va être arrêté, hein, par les anciens, livré à des gens pour être tué, qu'il sera mis à mort et qu'il va ressusciter. Ça, c'est le verset 21. Il y a trois fois ce passage dans l'épître de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Trois annonces comme ça. Trois annonces pour lesquelles les disciples n'ont rien compris. C'est après la mort et la résurrection qu'ils vont comprendre. Parce que Jésus va leur expliquer lui-même. Lisez Luc chapitre 24, vous verrez qu'il a pris le temps de leur expliquer. Et encore, ça a été pénible. Donc ce n'est pas humain de comprendre le sacrifice de Christ. Il faut une grâce divine. Il faut l'éclairage des Écritures. Alors, au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre Jésus et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur. » Donc, on s'en fout de ce que Dieu a écrit dans l'Ancien Testament, on s'en fout de ce qu'il a pu dire. Nous, on n'a pas envie que tu meures. Voilà. Clairement, c'est ça. Hein? Je le traduis en mots plus simples. « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons clairement que Pierre vient de démontrer qu'il est un caillou, et qu'il n'est pas un rocher. Il refuse le sacrifice de la croix, il refuse de suivre les pensées de Dieu, et il adhère à l'opposition de Satan, à l'opposition du salut par grâce, à la croix, opposition propre à Satan. Donc, il vient de démontrer qu'il est un caillou, il vient de démontrer ce que Jésus avait dit juste quelques instants avant, de manière prophétique. Ça, c'est extrêmement important. Dans Matthieu 26, donc, il faut bien se dire qu'un homme, même en blanc, avec une voiture, avec les télévisions, n'est jamais qu'un caillou. Un homme, un pape, un évêque, n'importe quoi, ou un grand pasteur de ci, de ça, hein, ne sont que des cailloux pour Dieu. Chapitre 26, verset 51. Regardons Pierre, dans une situation un peu spéciale. Voici, un de ceux qui est avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après moi, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Bon, pratiquement, vous voyez que Pierre, qui a eu des remontrances, au chapitre 16, versets 22 et 23, comme quoi il avait les pensées de Satan, qui s'opposaient au sacrifice à la croix de Christ. Il est encore opposé. Il ne veut pas que Jésus soit arrêté et tué. Et il intervient comme un caïd. Alors là où il perd tous ses moyens, c'est que Jésus n'approuve pas. De nouveau, il se trouve démoli par Jésus, qui n'approuve pas ses méthodes, n'approuve pas ses pensées, et il nous vient de nous démontrer pour la deuxième fois que c'est un caillou, et pas le rocher de l'Église. Alors, c'est quand même formidable, ces versets-là sont parlants. Regardons dans chapitre 26, verset 69 et suivant. Je ne suis pas en train de démolir Pierre. Je suis simplement en train de dire qu'on ne fasse pas de Pierre la source de salut, le fondateur de l'Église. Il n'en est pas question, c'est le Christ. Et il ne faut pas faire de tous ceux qui se prétendent de lui des super-héros sur lesquels il faut baiser la main et se mettre à genoux devant eux. Ce n'est pas biblique. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, dit à ceux qui se trouvaient, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage, dont l'accent galiléen n'était pas l'accent de Judée, ni de Samarie, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations injuries. Donc il utilise le nom de Dieu. Vous imaginez? Hein? Vous imaginez? Il utilise le nom de Dieu pour affirmer quelque chose. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Nous voyons bien que là, c'est le déclic total. Pierre est brisé. Pierre est brisé, il va laisser la place à la rédemption par la croix et par la grâce. Mais il est lessivé, il ne sait plus où il en est. Hein. D'ailleurs, quand Marie de Magdala va arriver, il patauge. Il n'arrive plus. Il n'a pas la solution. Il n'a pas l'éclairage. Il va falloir que l'éclairage lui vienne de Marie de Magdala et puis des autres. Jean. L'apôtre Jean. Et puis après, il a fallu la Pentecôte, tout compte fait, parce que sinon... Et puis il a fallu la fréquentation de Jésus ressuscité pendant quelques jours, avant qu'il monte au ciel. Donc nous voyons que Pierre n'a pas une place comme sauveur, comme fondateur de l'Église. C'est un serviteur de Dieu. Alors, nous avons vu dans Matthieu 16, verset 18, que Jésus bâtit l'Église. Et si nous retournons au chapitre 16, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Chapitre 16, verset 18, quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », donc c'est sur lui-même, et les séjours des morts ne préviendront point contre elle, donc Satan, ni la mort, hein, et ça c'est clairement dans Hébreux chapitre 2, Jésus a brisé Satan et la mort, hein, au début du chapitre 2 de Hébreux. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il lui donne la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux, quand on regarde Matthieu, c'est la réalité controversée jusqu'au retour de Jésus. C'est le bien livré, c'est les brebis, les boucs. C'est une clé pour se servir dans la réalité du temps de l'Église. C'est pas lui qui fait rentrer au paradis, comme soi-disant quand j'étais gosse, hein, quand on va arriver tout près de Saint-Pierre, il faudra faire patte blanche, etc. Et puis quand il y avait l'orage, le tonnerre, on disait c'était Saint, c'était Saint-Pierre qui, hein, qui faisait, qui était en colère. Bon, on a donné une place à Pierre dans toute une sorte de mythologie catholique qui a tout faussé. D'abord, le royaume des cieux, c'est tous ceux qui sont convoqués et appelés, qu'ils soient réellement convertis ou pas convertis. C'est ça, les brebis, les boucs, le blé livré. Tous ceux qui vont être chrétiens, qu'ils soient sauvés ou pas. Il n'y a que Dieu qui sait ceux qui sont sauvés. Et Jésus va le dire dans Matthieu 7, 21, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais c'est ceux qui ont fait la volonté de mon Père. Et aux autres, il dira « Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc clairement, au sein de la réalité des églises d'aujourd'hui, il y a des gens qui seront soumis à l'acceptation et d'autres au refus. Matthieu 7, 21. On ne peut pas en faire l'économie. Donc, Pierre n'a pas cette clé-là, ce pouvoir de décider qui est sauvé, qui ne l'est pas. Il a, avec les autres apôtres, des clés pour le temps de l'Église, pour le temps de ce royaume des cieux. Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Comment comprendre cela ? Je fais un effort. Je dirais peut-être que si un autre pasteur était là, il dirait peut-être autre chose. Je ne sais pas. Je prends mes responsabilités. D'abord, Église ne signifie pas royaume des cieux. Royaume des cieux ne signifie pas salut définitif, ferme et inébranlable. C'est un temps de convocation. C'est un temps où on est appelé. Il y en a qui répondent de 36 manières. Et qui se comporte de 36 manières. Ensuite, c'est que les clés, pour moi, c'est la science. Je te donne la science qui doit guider les appelés et les convoquer. C'est quoi la science ? C'est la doctrine de la croix. C'est la doctrine de la grâce. Il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre clé que la grâce par le sacrifice de Christ. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous voyez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et chapitre 2, qui dit ceci. Je ne veux savoir parmi vous que Christ crucifié. Et il a dit, moi je n'ai pas baptisé beaucoup de gens, je ne suis pas venu d'abord pour ça. Je suis venu pour Christ crucifié. Et puis, au chapitre 2, il dit, attention, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Attention à la façon dont on bâtit sur le fondement. Si on bâtit avec du chaume, c'est-à-dire des roseaux, hein, pour faire les toitures, de la paille, du foin, de l'or, etc. Donc, 36 façons de bâtir, hein, humainement. Attention, on en rendra compte. Et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 3 de la première Corinthiens ? C'est que Paul, Apollos, Céphas, ce ne sont que des dispensateurs. Ce ne sont que des serviteurs. Serviteurs de quoi ? De la vraie science. Le salut par grâce. Ok ? Donc, ce que je veux dire ceci, c'est que ce que tu liras sur la terre, à qui tu donneras la vraie science, la vraie doctrine du salut, il sera lié, il va être attaché à Dieu, il va être uni à Dieu par le sang de la croix, par le sacrifice, par la grâce, par Jésus vivant ressuscité. Et ce que tu auras délié sur la terre sera délié. Alors, on a bien entendu, dans l'Église catholique, au fur et à mesure du temps, opté pour le sacrement de la confession. Et c'est le prêtre qui lit et délie. L'extrême onction, quand quelqu'un est mourant, il lit ou il délie, s'il la donne sauvée. Et les gens étaient dans l'angoisse, dans la terreur. Ils allaient à confesse, au confessionnal, moi j'y étais. Si on refermait la baouette, c'est-à-dire il y avait une espèce de grillage, on voyait à peine le prêtre, et puis il y avait une porte coulissante. Si le prêtre fermait, ça veut dire non, je ne veux pas entendre, t'es exclu. Et donc, le pouvoir de dire tu es en communion avec nous ou excommunié, cette idée que l'Église avait ce pouvoir de trancher. C'est une déviation du sens de ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, on est dans l'abus. J'ai vu beaucoup de gens qui en ont souffert étant enfants. Par exemple, une jeune femme qui avait été enceinte suite à, je ne sais pas moi, n'importe quoi, même un accident, mais qui n'était pas mariée, c'était un rebut pour tout le village, pour la ville, pour l'Église catholique. Un divorcé, c'était un rebut. Mais qui a dit que c'était que Dieu ne les condamnait? On voit que Jésus avec la femme adultère n'a pas condamné, va, ben, ne pêche plus. Qui t'a condamné, dit à la, Jésus dit à la femme. Personne. Mais moi aussi, je ne te condamne pas, va, ben, ne pêche plus. Donc, on a abusé, on a pris des pouvoirs. C'était horrible, la mentalité. Et aujourd'hui, dans certaines veines du monde évangélique ou protestant, on peut retomber dans des mentalités comme ça. C'est pas la mentalité du vrai évangile, ça. C'est une mentalité d'abus, de déformation, qui donne aux responsables du réseau évangélique ou protestant, autant que catholique, un pouvoir sur les consciences qu'ils n'ont pas reçues de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire délier? Eh bien, nous allons essayer de comprendre. Je pense que l'Église est appelée à différencier les gens, à leur montrer quand même, toi tu suis le Seigneur, tu entends la parole, tu acceptes la grâce, tu as accepté la grâce de Christ, c'est bien, continue dans ce sens, sois reconnaissant à Christ pour le salut qu'il t'a donné, et puis l'autre, bah, il, manifestement, il s'en fout du sacrifice de Christ, mais il veut être dans l'Église. Il ne cherche pas à comprendre l'amour de Christ pour lui, et il ne cherche pas à aimer Christ. Il s'aime soi-même, il vient dans l'Église pour soi-même. Aussi étonnant que ça paraisse, ça existe. Quand nous regardons l'Apocalypse au chapitre 2, l'Église d'Éphèse, une énorme Église, elle a perdu l'amour de Christ. Repends-toi d'où tu es tombé. Et si vous regardez cette Église, il n'y en a quand même qu'une, la petite Église de Philadelphie, qui est vraiment attachée au Seigneur, à sa parole. Donc, il y a vraiment, vraiment, des problèmes qui apparaissent dans le christianisme, et les sept églises d'Apocalypse nous montrent bien que le royaume des cieux, ce champ où il pousse du blé et d'ivraie, où ce troupeau il y a des brebis et des boucs, c'est une réalité qui s'est accomplie jusque maintenant. Et qui n'est, Dieu n'est pas aveugle, il nous prévenait de ce qui allait arriver, de ce quoi nous sommes capables, pour qu'on se mesure à la parole de Dieu et qu'on s'examine, qu'on se critique soi-même. L'examen de conscience, le libre arbitre, le libre arbitre se fait avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de libre arbitre sans le regard de l'Évangile. Le libre arbitre sans le regard de la parole de Dieu. Bon, ça sera le regard de l'autosatisfaction, de l'auto-approbation. Ça sera l'auto-affirmation, l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Oui, bien sûr, certains prétendent que leur libre arbitre, ils y ont droit. Eh bien, qu'ils le prennent, on verra si Dieu, quand il sera en face de lui, sera d'accord. Alors, ceux qui ont la clé de la science, de la grâce, n'ont pas un pouvoir de juger, de condamner, de trier, mais pour délier, ça veut dire quoi? Bien, c'est, il faut mettre en mesure, en garde, ceux qui ne sont pas dans la grâce, ceux qui ne sont pas dans l'obéissance. Il faut différencier les choses, il faut leur montrer, sans les condamner, qu'ils doivent se repentir et changer. Prenons 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et qui doit changer? Simplement les fidèles d'une église et pas les responsables. Mais c'est surtout les responsables qui doivent se remettre en question. Parce qu'ils ont une lourde responsabilité et tout ce qu'ils font, les autres le regardent et ils vont aller dans un sens ou dans l'autre. 1 Corinthiens chapitre 5. Versets 1 à 13. Voici un exemple de situation, et on est dans les années 52-54. Donc, 22-24 ans après la mort et la résurrection de Jésus, son départ au ciel. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, vous imaginez. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et qui vient à l'église, et vous êtes enflé d'orgueil. Pan. Mais vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, donc dans souffrir, le souffrir de ça, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Jugé la situation, jugé les actes. Il n'a pas dit, il va aller en enfer. Hein? Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc il dit, il peut encore être sauvé. Mais il faut qu'il arrête de vivre de cette manière-là.
Sinon, il vaut mieux qu'il meure physiquement.
Voilà. Il vaut mieux qu'il arrête que d'empoisonner toute l'Église, ou alors, les amis.
Il vaut mieux qu'il meure.
S'il ne meurt pas, regardez-le bien, prenez votre responsabilité. Versets 12 et 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, sur les actes. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, si quelqu'un pêche lourdement dans une église, c'est que Dieu ne l'arrête pas par une maladie grave ou la mort. Ça veut dire que Dieu attend de l'église, enfin des membres de l'église, de demander à cet homme ou cette femme de quitter l'église. Au moins, pour un certain temps, pour qu'il ait honte de son péché. Paul l'explique autre part, hein, ça. Pourquoi ? Il faut une discipline. Donc, le délier quelque chose, c'est simplement dire, on ne va pas laisser croire à quelqu'un qu'il est obéissant à Dieu et qu'il respecte l'œuvre de Christ, si ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir montrer la différence, sans lui dire le maudire. Il faut prier pour lui, il faut aller le retrouver, mais il ne doit pas venir souiller la communauté le temps qu'il fait ça. Ok ? Vous voyez, pour moi, c'est ça délier. C'est différencier ce qui est acceptable, agréable à Dieu, et différencier ce qui ne l'est pas, et qui peut saboter l'œuvre de Christ. Si le laxisme ne sert à rien dans l'Église, le fanatisme non plus. Regardons dans chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si vous regardez cela, et que vous allez dans Apocalypse au chapitre 21 et 22, vous voyez bien que n'hériteront pas de l'arbre de vie les menteurs, les lâches, les abominables et tout ça. C'est la même chose, c'est équivalent. Que ce soit écrit comme ceci par Paul ou par Jean dans l'Apocalypse au chapitre 21-22, c'est le même enseignement. Il y a donc clairement un appel à la sainteté dans l'Église, et si on ne veut pas aller vers la sainteté, mais qu'on sorte. Le temps de se remettre en question, et puis on reviendra. Ça s'appelle la remise en question, le repentir. Et regardez bien ce qui est mis. Verset 11, « C'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous. » Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, on voit que c'est la grâce. C'est la grâce de Christ qui dirige l'Église. Et on ne peut pas bafouer la grâce de Christ. La prendre pour un torchon, pour un excrément. Donc, lié et délié, j'espère que j'ai fait comprendre ce que c'était. Mais ce n'est pas un droit de mettre sur un bûcher quelqu'un. Ce n'est pas un droit de le dominer, de l'écraser, c'est le devoir de lui enseigner la science de la grâce, de l'amour de Christ, qui est mort pour lui sur la croix, Jean 3, 16, et ensuite, le devoir de mettre à l'autre un miroir devant lui pour dire, mais là, tu t'égares, tu n'es pas encore en ordre avec le Seigneur, et que fais-tu dans l'Église si tu veux rester comme ça? Voilà ce que je voulais dire, délié et ou lié. Dans Matthieu chapitre 16, retournons à Matthieu, c'est fondamental ce texte, au verset 13. Nous avons des textes connexes. Ça veut dire que cette affirmation de la fondation de l'Église est entourée d'un contexte qui est très important à comprendre et à lire, à méditer. Matthieu 16, verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, donc c'est au pied du mont Hermon, ça, actuellement c'est dans la région du Golan et tout ça, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » un titre de Daniel, chapitre 9 et 11, quand Daniel voit Dieu sous forme humaine apparaître sur les nuées. Hein? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors, bien sûr, Jésus va dire que c'est par l'onction de Dieu, par le vouloir du Père, que Jésus a pu le dire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas les rabbins, ce n'est pas la religion dans laquelle tu es né, ce n'est pas ton intelligence, etc. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, le cadeau de la foi, le cadeau de reconnaître Jésus comme sauveur, comme fils de Dieu vivant, c'est aussi une grâce. C'est aussi une grâce. Il y a la grâce de reconnaître Jésus pour ce qu'il est. Comme après, Pierre, et vous allez voir, là, il se refuse à la grâce, il ne veut pas que Jésus meure à la croix. Donc, ça veut dire qu'un chrétien peut être ambivalent. Un chrétien peut prendre des choses de la Bible et des autres ne pas les prendre, et faire son tri personnel. Alors, Jésus est en colère. Parce que tu n'as pas le droit de retrancher et de te appliquer ce que j'ai dit. Donc Pierre va être conduit par Jésus à arrêter de mettre de la sauce sur la parole de Dieu et de l'agrémenter à son gré suivant ses besoins, ses moments, ses opportunités. Tout ça, ça veut nous dire quelque chose pour aujourd'hui. C'est que la révélation doit être respectée, c'est que toute la grâce doit être respectée et que l'Église... C'est la colonne de la vérité, comme dit Paul dans l'Épître à Timothée. C'est la colonne de la vérité, ce n'est pas la colonne de la fausseté. Et, ou du mélange, du méli-mélo, du Barnum Circus de la vérité. Les amis, c'est extrêmement important. Dans tous ces textes du chapitre 16, il y a aussi, bien sûr, vous avez l'affirmation du Christ, du Sauveur, reconnu par grâce, dans l'âme de Pierre, et puis plus loin, toujours dans le même chapitre, il y a quelque chose qui est expliqué, au verset 27 et 28, « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Vous savez que c'est cette parole-là que Jésus dit devant le grand Sanhédrin, hein, pendant la nuit, et c'est sur la base de ça que le grand prêtre va dire « il doit être crucifié ». C'est l'objet de la condamnation suprême. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, etc. Bon, mais ce qu'il y a, il faut bien comprendre que si Jésus en utilise cette affirmation du chapitre 16, verset 27, qu'on retrouve à la fin de Matthieu, devant le grand Sanhédrin, c'est une déclaration de première importance. Ça veut dire que le fondateur de l'Église reviendra dans sa gloire, envoyé par le Père, avec tous les anges. Et combien de passages dans Matthieu vont dans ce sens-là? Au moins 7 ou 8. Alors, et dans tous les autres évangiles. Donc, je pense que maintenant j'ai insisté que l'Église, c'est l'œuvre de la grâce en Christ, et qu'il n'y a pas à mettre ça dans les mains des hommes. Ça ne leur appartient pas. Prenons maintenant la 2e aux Corinthiens, chapitre 4. La 2e aux Corinthiens, chapitre 4. Comment se fait-il que quelqu'un comme Pierre, tout d'un coup, a reçu le don du Père pour reconnaître Jésus ? Christ, le Fils de Dieu vivant. Et qu'après, il montre la vanité de ses pensées, il se plante directement après. Ça montre bien que si Dieu ne donne pas la grâce, on n'est rien. Ça montre bien que sans la grâce agissante, le chrétien n'est rien du tout. Donc ça montre bien qu'il faut marcher selon la grâce et non pas selon la chair. Tout ça, c'est des enseignements d'importance. Et l'Église ne dépend pas de la chair. Elle dépend de la grâce de l'œuvre de l'Esprit-Saint. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 4. Alors, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, comme dans le temple, il y avait un voile de 9 mètres sur 11, 10 cm d'épais. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc pour ceux qui sont séparés de Dieu éternellement. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est l'orgueil, le péché. Et bien sûr, Satan y contribue. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire de Dieu, c'est sa mort et sa résurrection selon les Écritures, hein, c'est clair. Vous allez voir en Corinthiens 15, versets 1 à 6, vous avez la définition de l'évangile. Donc, mais regardons bien ce que dit Paul au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Vous voyez que fondamentalement, l'Église n'est pas auto-centrée sur elle, ni sur les papes et les évêques, ni sur des pasteurs, elle est centrée sur Jésus-Christ. Non, les autres sont des dispensateurs, des serviteurs de la parole, de la grâce. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 2 et 3. Donc, vous avez vu, c'est le Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de vous. L'Église est servante. Et dans ceux qui ont un rôle dans l'Église, il n'y a pas de rôle démagogique, d'autoritarisme, de domination, il y a un rôle de service. D'ailleurs, le mot ministère, ça veut dire service. Ça ne veut pas dire royauté. Mais regardez bien, à partir où l'empereur est disparu à Rome, le pape devient souverain pontife, donc empereur et chef religieux. Et regardez bien, vous avez à Liège le prince évêque. Ils avaient le prince évêque de ci, de ça, partout, partout. Ces abus, jamais Jésus ne les a voulu, c'est les hommes qui aimaient ça. D'ailleurs, pour être prince évêque, il donnait des fortunes à Rome pour construire Saint-Pierre, et ensuite, le pape leur donnait le titre, et il prenait sur le peuple la dîme pendant des dizaines d'années pour repayer ce titre. Rome s'est construit là-dessus, sur une imposture majeure. S'il faut que Jésus un jour fasse quelque chose à son retour, il fera tomber toutes les mosquées, tous les temples où les hommes se sont glorifiés, et toutes les maisons d'imposture, comme la place Saint-Pierre et d'autres. Il les rasera tous, et le vrai apôtre Pierre, le vrai apôtre Paul arriveront là et prêcheront autrement que ce que ceux qui se disent les successeurs parlent actuellement. Nous sommes dans l'imposture, dans l'apostasie, actuellement, et elle brille. Aujourd'hui, beaucoup de protestants trouvent que le pape est sympathique, est sincère, est bon, etc. Et ça y est, on va tous glisser dans son sac, si on se laisse faire. Faute de lire la parole de Dieu, de connaître la parole. Faute de connaître le dessein de Dieu. Quelle ruse! Quelle faiblesse! Alors, regardons un peu, au verset 6, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je suis ténèbre par définition, de par mon père et ma mère. Je suis ténèbre chaque fois que je m'écoute moi-même. Mais si je regarde sur la face de Jésus, je vois la gloire de Dieu. Et si je vois la gloire de Dieu qui resplendit sur Jésus, qu'est-ce qu'il y a? La lumière jaillit dans mon cœur. Donc, l'Église n'est dans la lumière que quand elle adore Christ. L'Église n'est pas une lumière par elle-même. L'Église ne prend sa lumière que là où elle est, sur la face de Christ. L'Église n'a pas à se glorifier de ce qu'elle n'est pas. Elle peut se glorifier de Jésus et de ce qu'il est. Ça, c'est différent. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Regardez bien. Et non pas à nous. Est-ce que c'est pas clair? Il n'y a pas de puissance dans un système ecclésiastique, hein, ou évangélique. un système qui s'auto-attribue des pouvoirs de révélation et de fidélité à Dieu, mais qui en fin de compte a établi des traditions. Et retire telle et telle chose dans la Bible, retire telle et telle chose. Ah oui, tout le monde se prétend fidèle, mais quand on gratte un peu, c'est pas tout à fait ça. Alors vous voyez que la gloire soit, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance de Dieu, c'est sa parole, c'est sa vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8. C'est le verset qui m'a fait comprendre que je devais quitter la doctrine catholique. Quand, à 16 ans, j'ai lu l'évangile, j'aimais le Seigneur, mais de tout mon cœur, à 18 ans encore plus, à 22 ans encore plus, ça grandit. J'ai essayé, j'ai fait des mouvements de jeunesse, j'ai fait des réunions, j'ai fait tout. Et à 42 ans, j'ai dit, Seigneur, j'étais tout seul. Sûrement que ma femme avait déjà compris longtemps avant moi, mais j'étais buté. Alors, je dis, Seigneur, ça fait 26 ans que je crois en toi, il n'y en a pas un seul qui est né de nouveau dans tous ceux que j'ai fréquentés, pour lesquels je me suis battu. Pas un. Ne va continuer ton œuvre et parler de toi. Ils s'en foutent tous. Donc le problème, c'est moi, Seigneur. Le problème, c'est pas eux, c'est moi. Parce que eux, les apôtres, quand ils prêchaient, il y avait des conversions. Alors, il a fallu que je reconnaisse ceci. Regardez bien, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Ce que je connaissais de Jésus, magnifique, je l'aimais, mais ce que je disais de Jésus, il y avait des choses mélangées qui venaient de l'Église catholique, qui venaient de tous les bouquins que j'avais lus, puis il y avait ce qui venait de l'Évangile. Choses mélangées, choses impures. Si je ne prends que l'Évangile, purement l'Évangile, selon sa révélation, sur la base, je suis dans la vérité. Si j'ai ajouté, j'ai retranché, je ne suis pas dans la vérité. Une soupe. André fait de la soupe, par exemple, ou toi, hein, Marie-France, tu fais de la soupe. Ça prend 2 heures. Et puis, une minute avant de la servir à table, tu mets 2-3 grammes d'arsenic dedans. Tout le monde mange, c'est la très bonne soupe. Et en fait, c'est du poison. C'est une mauvaise soupe. Eh bien, l'Évangile, à la sauce des grandes institutions chrétiennes, c'est la soupe dans laquelle on a mis de l'arsenic. C'est parce qu'on a ajouté des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas révélées. Et on a retranché celles qui nous dérangeaient. Et ça peut même arriver dans les mouvements évangéliques. Alors, ce qu'il y a, vous voyez, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Quand nous sommes dans la vérité, nous pouvons aller vers quelqu'un, lui expliquer qu'il y aura des conversions, il y aura une nouvelle naissance. Je peux mourir, j'ai fait mon boulot. C'est ça que j'ai compris à 42 ans. Allez, purée, 26 ans à tourniquer, de bonne volonté, hein, de bonne volonté, sincèrement dans l'erreur. C'est magnifique, hein. La connerie peut être plus haute que la tour Eiffel. La connerie peut être plus haute que la tour Eiffel. Et attention à nous. Attention à nous. Et regardez ce qu'il met. Je l'ai admis. Et encore, attention, ça peut revenir vite, la bêtise. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Vous avez vu? Lorsque je ne compte plus sur rien d'autre que le Seigneur Jésus et sa grâce, tandis que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans vos prières, c'est votre perfectionnement. Donc, dans ma faiblesse, c'est-à-dire que quand je ne compte plus sur rien d'autre que la vérité de l'Évangile, je me sens faible. Hein. Oula, j'ai dû décaper tout le reste, émonder. Eh bien, oulala, je dois attendre que Dieu agisse. Je prêche l'Évangile, j'annonce à quelqu'un, je dois laisser faire Dieu. J'ai pas de truc pour qu'il devienne enfant de Dieu. C'est ça la faiblesse. En cela, Dieu nous a donné une sacrée leçon. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, et on continuera dimanche prochain, verset 20. La deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, 19 et 20. Voici l'Église. C'est dans 1 aux Corinthiens, chapitre 5, 19 et 20. Première. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous appartenez pas à vous-même? À partir du moment où je sais que Dieu seul est la vie, il n'y a plus qu'une chose à faire. Je reste dans la mort où sommes-nous-nous par la vie? Par victoire du ressuscité. 1 Corinthiens, chapitre, verset,
chapitre 6.
Chapitre 6, verset 19. Car vous avez été rachetés à un grand prix, donc le prix du sacrifice de Christ et de sa résurrection. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À partir de ce moment-là, le corps que j'ai avec son âme sert à glorifier le Christ. Hein? Ok? Et quand je regarde au chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous faisons, ben, je vais commencer au verset 19, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 et 20. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, donc l'évangile. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs au Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà la mission fondamentale du corps de Christ. Voilà la mission fondamentale des sauvés. Voilà ce que c'est que l'Église. Dans son action, dans son engagement, on comprend que les pasteurs américains en venant en France, dès qu'ils ont fondé un petit groupe, qui est devenu après une grande église souvent, ils ont dit qu'il faut mettre des sous de côté pour aider d'autres à être évangélisés. C'est comme ça qu'on a bénéficié à Cambodge. S'il n'avait pas été convaincu de ça, il n'y aurait pas d'église ici. On n'aurait jamais rien fait à Gomri. Donc, à nous de nous réveiller, à nous de rentrer dans la responsabilité de lier aussi, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile pour que des gens soient à Dieu. D'attacher des gens à Christ. À nous la responsabilité d'être l'église. Malgré que nous sommes des cailloux, Dieu peut dans sa gloire mettre un trésor en nous, comme dans un vase impur, un vase aux parois épaisses de terre, et faire briller la lumière dans le cœur des hommes, la lumière de Christ. Nous continuerons notre réflexion sur l'autorité de l'Église, sur sa nature, et nous verrons les travers des institutions qui sont avec arrogance, s'approprient l'œuvre de Christ, et culpabilisent les gens et les maintiennent dans des liens de subordination qui ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas du tout spirituels. Ils sont plutôt autre chose. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu pour Jésus-Christ et son amour pour nous. Béni sois-tu pour la fondation de l'Église en Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Seigneur, et dans sa parole, dans sa personne, et pas dans les humains, pas dans nos églises, la fondation est en Jésus-Christ. Nous le confessons devant toi, Seigneur Dieu, et nous cherchons à édifier sur la fondation de Jésus-Christ, de manière digne, selon ta parole, de manière humble, sans vanité, sans esprit de domination, d'asservissement, d'accaparement, d'enrichissement, sans esprit du monde. Amen.
Amen. Je ne suis qu'un vase.